Une petite ville de la Virginie est la proie d'une mystérieuse épidémie. Des malades sont conduits d'urgence à l'hôpital. Bientôt, plusieurs hôpitaux de la région sont assaillis par ces malades à l'agonie. Pendant que les médecins luttent contre le tueur invisible qui les tenaille, les scientifiques cherchent des indices. Tant qu'ils n'auront pas trouvé la source de la maladie mortelle, il y aura de nouvelles victimes. Dans l'émission qui suit, certains noms ont été changés. Les habitants de la région des montagnes de Blue Ridge, en Virginie, coulent des jours paisibles. Mais le 14 octobre 1996, cette tranquillité va voler en éclats. À 9h du matin, James Linkus, 66 ans, est transporté d'urgence de son domicile de Christiansburg à l'hôpital. Il est dans un état critique. Sa température dépasse 40 degrés. Si l'ambulance n'atteint pas l'hôpital très vite, le vieil homme risque de mourir. James est admis aux urgences de l'hôpital régional de Montgomery, où l'on stabilise son état. Le docteur David Lander examine le malade. James est fumeur et cela le rend plus vulnérable aux infections respiratoires.
Il présentait les symptômes classiques d'une pneumonie. Il avait de la fièvre, il toussait, il était affaibli et pris de nausées, ce qui arrive parfois. De plus, le taux d'oxygène de son sang était un peu bas.
Une radiographie des poumons confirme le diagnostic. Des traînées et des taches blanchâtres révèlent que le patient souffre d'une pneumonie sévère. Une importante quantité de fluide s'est accumulée dans ses poumons, rendant la respiration pénible et douloureuse. Mais à elle seule, la radiographie ne permet pas de savoir toute la vérité. Un tueur sournois a pris d'assaut le corps de James Linkus. Le docteur John White fait la tournée de ses patients lorsqu'il est soudain appelé en salle d'urgence. Ce pneumologue est sur le point de voir le cas le plus complexe de toute sa carrière.
Il y a plusieurs degrés de sévérité dans la pneumonie. Ça peut être une toux légère avec un souffle un peu court, sans aucune fièvre. Mais ça peut aussi évoluer vers une forme extrêmement grave, touchant de multiples lobes du poumon, un poumon entier ou même les deux. Le sujet peut mourir par asphyxie.
La pneumonie n'est pas une maladie, mais une réaction physique due à une pathologie plus large. On peut contracter une pneumonie à la suite d'une infection, d'une réaction allergique ou même d'une exposition à des substances toxiques. À ce stade, seule une batterie de tests permettra d'identifier ce qui a provoqué la pneumonie de James Linkus.
Mr. Linkus, this is the breathing medicine the doctor ordered for you. I want you to try to take slow, deep breaths on this. This goes right into the lungs. Pull your breathing down.
En attendant les résultats, on administre à James un traitement stéroïdien pour l'aider à respirer en dilatant ses bronches. Le malade est aussi mis sous antibiotiques pour parer à une éventuelle infection. Ses médecins ne veulent prendre aucun risque. Chaque année, plus de 60 000 personnes meurent de pneumonie aux États-Unis. Ce sont pour la plupart des personnes âgées, au système immunitaire fragilisé.
Je prends la pneumonie très au sérieux. J'ai vu des cas, même bénins, s'aggraver très rapidement malgré un traitement approprié.
Le cas de James Linkus est malheureusement loin d'être bénin. Malgré le traitement, son état s'aggrave. Le taux d'oxygène dans son sang ne remonte pas. L'homme lutte pour trouver sa respiration. Il est transféré à l'unité de soins intensifs, où il est placé sous étroite surveillance. Au laboratoire de l'hôpital, un biologiste analyse le sang du patient. Une numération sanguine complète va permettre d'exclure comme cause possible de la pneumonie une réaction allergique, une exposition à un toxique ou une infection virale. L'analyse met en évidence un nombre extrêmement élevé de globules blancs, ce qui confirme que James Linkous a une infection bactérienne. Mais son origine demeure un mystère aux conséquences potentiellement mortelles. 2 heures plus tard, une seconde patiente arrive aux urgences. Mary Reynolds peut à peine respirer. Elle souffre d'un collapsus pulmonaire accompagné de vertiges et de nausées. Il y a quelques jours encore, elle croyait avoir contracté la grippe. Maintenant, elle est si faible qu'elle ne tient pas debout. Les symptômes ne laissent aucun doute. Elle est atteinte de pneumonie.
Un peu plus tard, le docteur Lander m'a appelé pour un autre cas de pneumonie. Il semblait résigné à passer une dure journée.
La patiente est si faible que White demande un appareil de radiographie portable pour lui faire des clichés du thorax sur place.
Depuis plusieurs jours, Mary Reynolds avait le souffle court, de la fièvre et elle toussait. Elle avait aussi des nausées. Elle était assez mal en point en arrivant à l'hôpital.
Elle a déjà été transférée à l'unité de soins intensifs quand sa fille, Vicky Chiaretta, arrive à l'hôpital.
Mon père m'a appelée pour me dire que son état avait empiré. Elle délirait et elle souffrait énormément.
Vicky est terrifiée. Sa mère a toujours été active et en bonne santé. Et là, elle peut à peine bouger.
Quand on essayait d'avoir une conversation avec elle, au début, sa voix était normale, mais à la fin, ce n'était plus qu'un murmure douloureux.
Le docteur White est inquiet. La radio confirme le diagnostic. L'organisme de la vieille dame, tout comme celui de James Linkous, se bat contre une mystérieuse infection. Mais pour l'un comme pour l'autre, la lutte semble perdue. Moins d'une heure plus tard, un troisième patient en proie à une toux incoercible arrive aux urgences. Depuis plusieurs jours, il éprouve des douleurs musculaires et une fatigue intense. Sa température a grimpé à 40 degrés. Il se plaint de douleurs abdominales et de nausées. Ses symptômes sont identiques à ceux des deux patients admis un peu plus tôt dans la journée. C'est en hiver que les cas de pneumonie sont les plus nombreux. Mais même au plus fort de la saison, l'hôpital n'accueille en moyenne qu'un cas par jour. Le docteur White vient pourtant de diagnostiquer 3 pneumonies sévères en l'espace de 12 heures.
J'ai eu la nette impression d'avoir affaire à quelque chose de grave. Ce n'était pas une journée ordinaire. À en juger par le nombre d'infections qu'on voyait, il se passait forcément quelque chose d'anormal.
Les radiographies des 3 patients ne laissent planer aucun doute. Elle montre des cas typiques de pneumonie. Mais un symptôme présent chez les 3 patients sème le trouble dans l'esprit du pneumologue.
La plupart des patients étaient victimes de nausées, et c'était troublant. Ce n'est pas un symptôme qu'on observe chez la majorité des patients atteints de pneumonie.
White craint d'avoir affaire à une pathologie plus grave. Quelle qu'elle soit, la maladie se répand comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, 3 autres patients sont admis aux urgences avec les mêmes symptômes. Puis, au cours de la nuit, White est prévenu de l'arrivée de 2 nouveaux cas de pneumonie. Jamais l'hôpital n'en a accueilli autant en 24 heures. L'état de James Linkous se dégrade d'heure en heure. Placé sous sédatif, il ne peut plus respirer sans assistance. White est inquiet. Cette rafale de cas sévères est très alarmante.
J'avais acquis la conviction qu'on avait affaire à une épidémie.
Conformément à la procédure, le docteur White fait part de ses soupçons au bureau de la santé. Katrina Watson est infirmière au bureau de la santé de New River. Son expérience en matière d'épidémie lui fait immédiatement soupçonner le pire.
Chaque fois qu'il y a recrudescence de maladies respiratoires ou de pneumonie dont on ne connaît pas la cause, la population risque d'être prise de panique. Des familles affluent aux services d'urgence. On ne sait pas si cela va toucher seulement les enfants ou aussi les adultes. Il nous faut éviter à tout prix cet état de panique.
Les cas de pneumonie de l'hôpital régional de Montgomery sont incontestablement atypiques. Katrina Watson alerte le docteur Joe D'Hershey, directeur de la santé du district de New River Valley. Son rôle consiste à traquer les maladies infectieuses, rougeole, méningite, grippe, sida, en un mot, toutes les pathologies contagieuses. Le doute n'est plus permis. Il s'agit bien des premiers signes d'une épidémie.
C'était la mi-octobre. Ce n'était pas encore la saison de la grippe. Je ne m'attendais pas à un phénomène de genre à cette époque de l'année. On a donc téléphoné aux autres hôpitaux et cabinets médicaux de la région. On s'est alors rendu compte qu'aucun autre hôpital n'avait recensé plus de cas de pneumonie ou d'infection respiratoire que d'habitude.
Cela tend à prouver qu'il existe un seul et unique foyer d'infection. Mais le docteur Hershey le sait bien. Si l'on n'en retrouve pas très vite l'origine, la contamination risque de faire des centaines de nouveaux malades. Il fait équipe avec le docteur White pour étudier les dossiers des patients dans leurs moindres détails. Le nombre de malades, leur âge et la prévalence insolite des nausées. Pour identifier une épidémie, chaque symptôme compte. Hershey et White recueillent ainsi un faisceau d'indices qui semble désigner un coupable unique, Legionella pneumophila, la bactérie responsable de la maladie du légionnaire. Un prédateur biologique plane sur la ville. Combien d'autres victimes fera-t-il avant qu'on ne puisse trouver et éliminer le foyer de l'infection? En octobre 1996, des médecins de Christiansburg, en Virginie, luttent contre une mystérieuse épidémie potentiellement mortelle. En l'espace de deux jours, les urgences de l'hôpital régional Montgomery accueillent 15 patients qui souffrent tous du même mal, une pneumonie sévère. Le docteur Joe D'Hershey, directeur du district de la santé de New River, soupçonne désormais une pathologie beaucoup plus grave, la maladie du légionnaire.
J'étais très inquiet. S'il s'agissait bien de la maladie du légionnaire, c'est une pathologie qui peut être très grave, se propager à toute vitesse et s'avérer mortelle.
La maladie du légionnaire est tristement célèbre depuis 1976, lorsqu'une épidémie de pneumonie a frappé plus de 200 personnes dans un hôtel de Philadelphie. En quelques semaines, la maladie a fait 29 morts, dont la plupart étaient des participants à un congrès de l'American Legion. Après des mois d'enquête, on s'était aperçu que des bactéries avaient colonisé le système de climatisation. Le germe avait été dispersé dans l'air et inhalé par des centaines d'invités. Jusque-là, la Légionella existait dans la nature, mais c'était la première fois que des humains avaient été infectés. Une nouvelle maladie, potentiellement mortelle, était née.
Mr. Lincas, I'm going to take a listen to your heart and your lungs.
20 ans plus tard, Christiansburg, en Virginie, est le théâtre d'une nouvelle flambée. On craint le pire.
If they had Legionnaire's pneumonia,
s'ils avaient contracté la légionellose, il fallait qu'on sache. Nous devions découvrir les causes de cette pneumonie pour enrayer la contamination.
Les autorités sanitaires mettent au point un protocole de soins à l'usage des médecins locaux. Tout patient atteint de pneumonie doit désormais se soumettre à des analyses de sang et d'urine. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire du Bureau de la Santé de Virginie pour y subir une batterie de tests plus poussée. Mary Reynolds, l'une des premières malades, est toujours dans un état très grave. Elle ne répond pas aux antibiotiques prescrits par le Dr. White. Mary respire avec difficulté. Son taux d'oxygène est dangereusement bas. Quand sa fille Vicky apprend qu'il s'agit peut-être de légionellose, elle est saisie par l'angoisse.
C'était effrayant, car elle se remettait très lentement. Quand j'ai entendu les mots « maladie du légionnaire », ça m'a fait un choc.
Au bureau de la santé du district de New River, le docteur Hershey s'efforce de comprendre cette flambée épidémique qui s'amplifie de jour en jour. Il fait appel à un groupe d'épidémiologistes spécialement formés pour dépister et prévenir la propagation de la maladie. Il contacte systématiquement les hôpitaux du secteur pour savoir combien de patients atteints de pneumonie y ont été recensés. En tout, on a diagnostiqué 21 cas. Hershey a la quasi-certitude qu'ils sont liés à l'épidémie. Mais sans résultat d'analyse, il n'en a aucune preuve.
Tout d'un coup, on se retrouvait avec 20 malades hospitalisés en attente de résultats. C'était franchement alarmant.
Les échantillons de sang sont envoyés à un laboratoire de Richmond. Les biologistes tentent d'identifier formellement l'infection. Ils commencent par soumettre le sang à une centrifugeuse pour isoler les globules blancs et les globules rouges du sérum. Le sérum est ensuite placé sur une lamelle et mélangé à une solution destinée à révéler la présence éventuelle d'anticorps fabriqués par l'organisme pour lutter contre la légionellose. Le tout est ensuite examiné au microscope sous une lumière ultraviolette. S'il y a présence de Legionella, les anticorps vont apparaître nimbés d'un halo verdâtre. Les chercheurs tiennent enfin la réponse. La bactérie de la légionellose est présente dans les prélèvements de 4 patients. Cela confirme l'hypothèse de Jody Hershey. Il s'agit bien d'une épidémie de légionellose. Pour enrayer sa propagation, il faut retrouver l'origine du foyer bactérien. En quête d'un fil directeur, Hershey passe en revue les antécédents médicaux des patients. Hormis le fait que tous habitent et travaillent dans la région de Christiansburg, ils n'ont pas grand-chose d'autre en commun. Katrina Watson sait que pour retrouver la source de l'infection, il faut obtenir davantage d'informations.
Il était très important d'interroger les patients pour savoir s'ils avaient des points communs afin d'éviter qu'il y ait de nouvelles victimes.
Des équipes d'enquêteurs médicaux sont dépêchées dans les hôpitaux de la région pour y interroger les patients. Hershey insiste sur l'importance d'obtenir des informations détaillées. Ils rappellent que le temps joue contre eux.
La confirmation que ces pneumonies étaient dues à la légionellose a accéléré l'enquête. Nous savions qu'il s'agissait d'une bactérie potentiellement mortelle, susceptible de contaminer beaucoup de gens et qu'il fallait très vite en retrouver l'origine.
Désormais, le doute n'est plus permis. Le docteur Hershey rend ses conclusions publiques. La population doit apprendre à reconnaître les premiers symptômes de la légionellose et comprendre le traitement. Le docteur Hershey exhorte les habitants à garder leur calme. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias locaux. Les malades, dont plusieurs sont dans un état critique, sont répartis dans 4 hôpitaux de la région. Les familles et les proches vivent dans la hantise d'être les prochaines victimes.
Les gens étaient terrifiés. Ils avaient peur de sortir, d'aller faire leurs courses, d'assister à des matchs de football ou d'aller à l'église.
Les collègues de travail des malades sont particulièrement inquiets. Les dirigeants des entreprises locales demandent au docteur Hershey de répondre aux questions de leurs salariés anxieux.
Il y avait une grande inquiétude chez les gens. Ils voulaient savoir si c'était contagieux et si eux ou leurs enfants risquaient de contracter la maladie.
Dans l'espoir d'apaiser leurs craintes, Hershey explique que la maladie du légionnaire n'est pas contagieuse et qu'elle frappe rarement les enfants. Les sujets les plus à risque sont les personnes âgées de plus de 50 ans et fragiles sur le plan immunitaire. La contamination ne peut s'opérer que par contact direct avec la bactérie. Mais la liste des victimes ne cesse de s'allonger et la panique commence à gagner les habitants. Quelque chose à Christiansburg rend les gens malades. Mais quoi? Tant que ce mystère ne sera pas résolu, nul ne sera à l'abri. En octobre 1996, en Virginie, plus de 20 personnes ont contracté une grave pneumonie. Quand les analyses de sang confirment 4 cas de légionellose, le docteur Jody Hershey, directeur du bureau de la santé du district, alerte la population et tous les hôpitaux. Les malades hospitalisés sont entourés de la plus grande vigilance. Ils reçoivent des antibiotiques pour combattre tout signe d'infection. Chez ceux qui répondent au traitement, la guérison survient en moyenne au bout de 2 semaines. Mais pour les personnes âgées, la lutte contre l'infection est un combat lent et pénible. Mary Reynolds est régulièrement placée sous masque à oxygène et reçoit une antibiothérapie de choc. Malgré tout, son état continue d'empirer. Sa fille, Vicky, voit avec désespoir sa mère lutter contre la mort.
À un moment donné, on ne voyait plus aucune amélioration. Il y avait même des jours où elle allait encore plus mal. J'ai eu très peur.
Dans la région, tout nouveau patient hospitalisé est soumis à un test de dépistage de la légionellose. Le laboratoire de santé publique de Virginie croule sous les demandes d'analyse. L'épidémie menace de virer au cauchemar et les autorités sanitaires n'en ont toujours pas découvert l'origine.
Il fallait continuer à surveiller tous les patients qui entraient à l'hôpital, confirmer qu'ils avaient ou non une pneumonie due à la légionella, puis voir si la cause pouvait être liée à leur environnement.
L'unique façon d'enrayer l'infection est d'en trouver l'origine. Sur la base d'un faisceau d'indices, le docteur Hershey soupçonne que la source infectieuse se trouve à Christiansburg ou dans les environs. Il s'agit désormais de la localiser précisément.
Okay, Chris, which hospital? I've contacted you.
On retrouve la Légionella dans les fontaines et les berges de rivières. De petites poches isolées ne suffisent pas à provoquer une infection. Mais dans un milieu humide et chaud, la bactérie se multiplie très rapidement. Quand elle se trouve dans des particules d'eau en suspension, elle peut être inhalée et devenir potentiellement mortelle. Hershey et son équipe n'ont guère le choix. Il faut identifier et contrôler toutes les sources d'aérosols de la région. C'est un travail de titan. Hershey fait appel à Vic Murchison, un spécialiste des problèmes de santé publique liés à l'environnement.
Au tout début, on ne savait pas où chercher. Alors, on a commencé par tous les lieux qui pouvaient générer des aérosols.
L'épidémie de 1976 était due à un système de climatisation défectueux. Murchison commence par inspecter tous les systèmes de refroidissement de la région. Mal entretenus, ceux-ci peuvent être de véritables bouillons de culture pour la bactérie.
Nous cherchions des eaux contenant la Légionella. En se transformant en micro-gouttelettes, l'eau est inhalée par les voies respiratoires. Et c'est ainsi que les gens s'infectent. Toute production d'aérosol était suspecte.
Murchison prélève des traces d'humidité sur le dessus et le pourtour des bouches d'évacuation d'une tour de refroidissement. Les échantillons sont analysés en laboratoire et mis en culture pendant 3 jours pour y rechercher une éventuelle croissance bactérienne. Les résultats sont négatifs. Toutes les cultures sont exemptes de Légionella. Pourtant, le docteur Hershey reste convaincu que la source infectieuse se trouve à Christiansburg. Refusant de s'avouer vaincu, il décide de recentrer son enquête sur les patients.
Nous cherchions à identifier précisément tout point commun susceptible d'exister entre ces patients. Avaient-ils été exposés à une seule et même source infectieuse? Nous étions à la recherche d'un facteur commun lié à l'environnement. Si nous arrivions à l'identifier, nous pourrions localiser la source de l'infection et arrêter sa propagation.
Le docteur Hershey remet aux agents de santé un questionnaire détaillé destiné aux malades. Il veut savoir où vivent ces derniers, où ils travaillent et font leurs achats et comment ils occupent leurs loisirs.
Pour comprendre ce qui se passait, il fallait savoir où ces patients s'étaient rendus dans les 2 semaines précédant leur maladie. Et même si c'était délicat parce qu'ils étaient très malades, nous devions les interroger et leur poser les bonnes questions pour reconstituer l'historique de l'épidémie.
Interroger les patients est une tâche longue et pénible, surtout dans une situation d'urgence. Mais les agents de santé, comme l'épidémiologiste Betty Rouse, refusent de baisser les bras.
Ne pas connaître l'origine d'une infection potentiellement mortelle pour un aussi grand nombre de gens nous plongeait dans une situation d'urgence. Cela exigeait qu'on s'y attelle jusqu'au bout, en y mettant toutes les ressources nécessaires.
Après avoir interrogé de nombreux patients, la liste des foyers d'infection possibles commence à se réduire.
Certaines constantes nous sont apparues presque aussitôt. Nous avons dressé une liste des lieux de Christiansburg où s'étaient rendus tous les malades ou une partie d'entre eux, et notamment un supermarché, un grand magasin et une quincaillerie.
Mary Reynolds déclare au docteur Hershey s'être rendue plusieurs fois au supermarché avant de tomber malade. Il semble pourtant peu probable qu'on puisse contracter une légionellose en faisant ses courses. Et pourtant, La vieille dame s'est peut-être contaminée en manipulant tout simplement des fruits et légumes. En principe, l'eau utilisée pour garder les légumes au frais subit un traitement antibactérien. Mais un vaporisateur mal entretenu peut offrir des conditions idéales au développement d'agents pathogènes. Le CDC dépêche une équipe d'enquêteurs pour prêter main forte aux agents de santé de Virginie, débordés par l'ampleur de l'épidémie. Situé à Atlanta, en Géorgie, le CDC est le principal organisme américain de contrôle et de prévention des maladies. Il est chargé de dépister, surveiller et enrayer les maladies infectieuses. Les enquêteurs du CDC sont informés de la situation par l'équipe d'Hershey, composée de médecins, d'infirmières et d'agents de santé publique. Puis, ils inspectent chacun des lieux suspects à la recherche de points d'eau susceptibles d'abriter la bactérie. Des trois lieux suspects, le supermarché semble le plus probable. Les enquêteurs s'y rendent en premier lieu à la recherche de traces de vapeur d'eau susceptibles d'être inhalées et de provoquer la maladie. Ils s'intéressent tout particulièrement à un vaporisateur diffusant des gouttelettes d'eau sur des légumes. Il est déjà arrivé que de tels appareils se révèlent contaminés par la Legionella. Des échantillons sont envoyés de toute urgence au laboratoire du CDC pour analyse. Il faudra 3 jours pour déterminer la présence ou l'absence de la bactérie. Hershey se rend ensuite dans le second lieu suspect, un grand magasin. Il annonce aux employés sous le choc qu'il doit prélever des échantillons d'eau dans leurs toilettes, leurs fontaines à eau et le système central de climatisation. Tandis que se poursuit la traque de la bactérie tueuse, le public exige des informations.
All right. We do have some phone calls on the air. We'll go ahead. Good morning, you're on the air.
All right,
Dr. Quiconque tousse ou souffre d'un rhume vit dans la peur d'avoir contracté la maladie. Hershey fait de son mieux pour calmer les esprits et donner toute information relative à la légionellose. Mais en dépit de tous ses efforts, un sentiment de panique s'empare de la population. Dans un hôpital du comté de Montgomery, l'état de l'un des patients s'aggrave brusquement. Paul Douglas, 50 ans, est dans un état critique depuis plusieurs jours. Les médecins tentent l'impossible pour le réanimer. Mais leurs efforts sont vains. Le dimanche 27 octobre 1996, l'épidémie fait son premier mort. Si les enquêteurs n'en retrouvent pas l'origine, il ne sera sans doute pas le dernier. En 1996, les agents de santé de Christiansburg, en Virginie, luttent pour remonter à la source d'une redoutable épidémie de légionellose. L'une des victimes est décédée et 15 autres patients luttent contre la mort. Avec l'aide du Centre de contrôle et de prévention des maladies, le Dr Jody Hershey, directeur de la santé du district, tente désespérément de remonter à la source de la contamination avant que la bactérie ne fasse de nouvelles victimes. Cela fait 2 semaines que les premiers patients atteints de symptômes apparentés à une pneumonie ont été admis en urgence à l'hôpital régional de Montgomery. L'une des premières victimes, Mary Reynolds, est toujours sous étroite surveillance médicale. Pour sa fille, Vicky, l'attente est interminable.
Elle ne ressemblait plus à ma mère. Elle était très mal en point. J'ignorais totalement que la maladie du légionnaire pouvait être aussi grave.
Sur près de 25 malades atteints de pneumonie, 15 sont des cas confirmés de légionellose. Une équipe de médecins et d'agents de santé publique travaille jour et nuit pour remonter à la source de l'infection. Procédant par élimination, ils ont retenu 3 sites suspects, un supermarché, un grand magasin et une quincaillerie. Les échantillons prélevés au supermarché et au grand magasin se révèlent négatifs. Reste le troisième site.
La quincaillerie semblait être le foyer d'infection. Nous y avons donc envoyé une équipe pour identifier et repérer toutes les sources de vapeur d'eau.
Les enquêteurs passent le magasin au peigne fin. Au rayon jardinage, ils effectuent des prélèvements d'eau sur des tuyaux d'arrosage, un système d'aspersion et une fontaine décorative. Un bain à remous exposé dans le magasin est également une source de contamination possible. Dans le passé, des bains à remous ont déjà été à l'origine de flambées de légionellose aux États-Unis. Généralement, les bactéries colonisent le filtre. L'expert en environnement, Vic Markerson, examine l'appareil.
Nous sommes d'abord allés là où les bains à remous étaient en exposition. Nous avons recueilli des échantillons d'eau, mesuré la température et identifié les désinfectants présents dans l'eau.
Plus les enquêteurs progressent dans leurs recherches, plus ils sont convaincus que le problème vient du bain à remous. Aucun des employés du magasin n'est tombé malade, mais il s'agit pour la plupart de gens jeunes, dotés d'un système immunitaire capable de se défendre contre des bactéries pathogènes. Certains clients plus âgés n'ont pas eu cette chance. Pour prévenir toute nouvelle contamination, le bain à remous est recouvert d'une bâche jusqu'à l'analyse des prélèvements. Les échantillons et le filtre du bain à remous sont envoyés directement au CDC. Aucun des échantillons prélevés dans la quincaillerie, que ce soit au rayon jardinage ou ailleurs, ne révèle la présence de Legionella. Reste le filtre du bain à remous. Il est d'abord rincé à l'eau distillée pour en chasser toutes les bactéries. L'eau ainsi recueillie est passée à travers un filtre spécial qui retient les bactéries. Puis, l'isolat obtenu est mis en culture. Le professeur Barry Fields, de la division des maladies bactériennes du CDC, procède à l'opération.
On a placé l'isolat dans un milieu nutritif favorisant la croissance des micro-organismes et utilisé un microscope de dissection pour observer la croissance caractéristique des Legionella.
Si le résultat est positif, il confirmera non seulement la présence de la bactérie, mais en indiquera la souche exacte. Cette information permettra d'identifier formellement la source de l'infection. Une fois l'examen achevé, Barry Fields appelle Jody Hershey pour lui faire part des résultats.
Hello, Dr. Hershey.
Ce dernier ne cache pas sa stupéfaction.
Negative?
Ni le filtre du bain à remous, ni les échantillons d'eau ne portent la moindre trace de Legionella. Sa déception est immense, d'autant que la maladie continue à faire de nouvelles victimes. Les autorités sanitaires accusent le coup. C'est l'échec sur toute la ligne.
Nous étions frustrés et déçus. Nous avions passé beaucoup de temps à faire des analyses et interroger les gens, et tout désigner la quincaillerie.
Hershey et son équipe ne veulent pas s'avouer vaincus. Malgré les résultats négatifs des tests, Hershey reste convaincu que le foyer infectieux se trouve dans la quincaillerie. Il est persuadé que si la bactérie ne se trouve pas dans le bain à remous, elle est ailleurs dans le magasin.
Nous refusions de baisser les bras. Notre instinct et tous les indices incriminaient le bain à remous. Nous sommes retournés à la quincaillerie et avons poussé plus loin notre enquête en interrogeant le personnel.
Dans toute enquête, un second interrogatoire des mêmes personnes peut apporter des éléments nouveaux. Avec le temps, il arrive souvent que les témoins se souviennent de détails oubliés la première fois. Le directeur du magasin se rappelle une chose qu'il a omise de dire aux enquêteurs lors de leur première visite. Après avoir vérifié ses registres, il confirme qu'il y avait à l'origine deux bains à remous en exposition. L'un d'eux a été démonté il y a tout juste 3 semaines et vendu à un employé. Les agents de santé foncent à son domicile. Le second bain à remous est peut-être à l'origine de la contamination. Mais si l'employé a nettoyé ou jeté le filtre, les agents de santé risquent de ne pas retrouver la moindre trace de la bactérie. La chance est avec eux. Le propriétaire n'a pas encore nettoyé ou utilisé le bain à remous. Depuis 3 semaines, il n'y a même pas touché. Si le filtre a séché entre-temps, il n'y a guère de chance de retrouver des traces de Legionella. Mais heureusement, il est encore légèrement humide. On l'envoie immédiatement au laboratoire du CDC à Atlanta. Le professeur Barry Fields est soulagé du résultat.
Les colonies de Legionella ont une apparence caractéristique. Elles sont blanches, avec un bord qui peut tirer sur le rouge, le violet ou le vert. On les distingue donc aisément.
La bactérie est bien présente. Mais cela ne suffit pas encore.
Les Legionella se trouvent communément dans l'environnement. Et leur seule présence ne signifie pas nécessairement qu'elles sont à l'origine d'une pathologie. On doit être sûr d'avoir trouvé la souche responsable de la maladie.
Fields cherche donc à déterminer s'il s'agit bien de la souche responsable de l'épidémie de Christiansburg. Des tests d'ADN sont effectués sur les bactéries retrouvées dans le filtre et sur celles infectant les patients. Les deux échantillons sont identiques. Hershey tient enfin la preuve qu'il attendait. La source de la contamination a été identifiée.
La collaboration entre les autorités sanitaires régionales et fédérales a été rapide et efficace. En unissant nos efforts, on a pu identifier la source de cette mystérieuse maladie et prévenir une épidémie qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.
Pour le docteur John White, la fin de l'épidémie est un immense soulagement.
Ça a été l'une des expériences les plus difficiles de ma carrière. Voir tous ces malades atteints de pneumonie dont je me sentais responsable. Avoir le sentiment qu'il se passait quelque chose dans la communauté sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et voir arriver de nouveaux cas, c'était terrifiant.
Mary Reynolds et les autres victimes ont inhalé des bactéries qui se développaient dans le bain à remous depuis plusieurs semaines. On n'a jamais su comment elles étaient arrivées là. Depuis cet épisode, les directives gouvernementales sur l'entretien et la désinfection des bains à remous s'appliquent à tous les appareils de ce type, y compris les articles d'exposition. Selon le docteur Joe Hershey, la maladie du légionnaire a profondément bouleversé ce paisible coin de Virginie.
Cette épidémie a eu et continue d'avoir un effet sur New River Valley. Les gens n'oublieront jamais la terreur que leur a inspirée cette maladie mystérieuse et potentiellement mortelle.
L'épidémie de légionellose de 1996 en Virginie fut la seconde de l'histoire en nombre de victimes. En tout, elle fit 23 victimes. Elle causa la mort de 2 personnes. Mary Reynolds, 70 ans, est sortie victorieuse de son combat contre la maladie. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, elle est enfin rentrée chez elle, auprès des siens. Comme des dizaines d'autres malades, elle doit sa guérison au travail acharné d'une équipe de médecins, d'agents de santé publique et de biologistes qui ont œuvré d'arrache-pied pour traquer un tueur invisible.